100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, MMD, voilà trois lettres qui ont hanté l'Italie pendant 30 ans. Matteo Messina Denaro, ce nom a rythmé l'actualité italienne depuis 1993. Ce nom, c'est celui de l'un des grands chefs de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, le dernier en cavale. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Italie, car l'arrestation de celui qu'on surnomme Diabolique, c'est la fin de 30 ans de traque policière, mais aussi des réponses à de nombreuses questions. Et d'abord sur l'aspect physique de l'homme le plus recherché d'Italie, Cécile Debarge.
Veste en nubuck marron fourré, bonnet sombre sur les oreilles, lunettes de soleil, on devine quand même ces traits que l'on a vus maintes et maintes fois sur les portraits robots élaborés avec l'aide du FBI américain. Matteo Messina Denaro ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, alors que les hypothèses les plus folles avaient imaginé de multiples opérations de chirurgie esthétique qui l'auraient rendu méconnaissable. Un Monsieur Tout-le-Monde qui a des problèmes de santé car le cerveau de la mafia sicilienne a eu 60 ans en avril dernier et a été arrêté dans une clinique privée du quartier de la Maddalena à Palerme en Sicile. Et donc, deuxième réponse à l'autre question qui rythmait sa traque, où se trouvait-il ? Au gré des informations, ces 30 dernières années, il avait été aperçu dans le monde entier. La Maddalena est un quartier qui se trouve, lui, en plein cœur de la ville de Palerme. Cela semble à la fois invraisemblable et en même temps très logique. Plus que l'endroit, ce qui comptait pour couvrir le boss pendant des décennies, c'était un réseau de soutien inébranlable. Alors, qui l'a protégé pendant plus de 30 ans ? Quel secret Matteo Messina Denaro va-t-il révéler ? À quel point sera-t-il prêt à collaborer avec la police italienne ? La liste des réponses qui arrive au compte-gouttes n'en est qu'à ses débuts.
Faut-il placer le corps des gardiens de la révolution islamique, la police des mœurs en Iran, sur la liste des entités terroristes ? Les 27 pays de l'Union européenne en débattent aujourd'hui au Parlement à Strasbourg, alors que le régime iranien multiplie les condamnations à mort et les exécutions sans témoin ni avocat pour réprimer le soulèvement qui secoue l'Iran depuis le décès en détention de la jeune étudiante Mahsa Amini. En Allemagne, depuis plusieurs mois, des activistes se battent pour la libération de ces Iraniennes et Iraniens, souvent détenus dans le plus grand secret, avec comme arme le parrainage par des élus. Des députés qui s'engagent à user de leur présence médiatique, à faire pression pour qu'aient lieu des procès équitables. Julien Méchossi les a rencontrés à Berlin.
Malgré la pluie fine et le froid, ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés devant la porte de Brandebourg, à quelques minutes à pied du Bundestag, le Parlement allemand. Parmi les slogans scandés, celui de la révolution iranienne, « Femme, vie, liberté ». Au premier rang, le visage rempli de détermination de Daniela Seppéri se détache encore plus de celui des autres manifestants. Née en Allemagne, la jeune femme de 24 ans est la fille d'Iraniens exilés en Europe. Elle fait partie d'un petit groupe d'activistes qui a lancé un programme de parrainage pour les prisonniers politiques en Iran. Daniela a réussi en quelques mois à convaincre près de 250 députés de s'engager.
Grâce à cette pression publique, nous avons réussi à faire sortir des personnes de prison. Certaines ont été transférées dans des cellules collectives après des semaines passées à l'isolement. D'autres ont eu le droit de choisir eux-mêmes leur avocat, d'avoir enfin accès à des soins médicaux ou de téléphoner à leurs proches. Chaque exécution annoncée est une terrible défaite. Mais abandonner ne saurait constituer une solution, car c'est exactement ce que cherche à obtenir le régime.
Un peu en retrait, Helge Limburg, député écologiste, enchaîne les interviews. Il est le parrain de Mohamed Mehdi Karami, arrêté début novembre lors d'une manifestation dans les environs de Téhéran. Il a été pendu à l'âge de 22 ans au début du mois.
Lorsque nous avons appris qu'il avait été exécuté, cela a été bien sûr un énorme choc. Mohamed a été assassiné par le système judiciaire iranien. J'ai encore du mal à réaliser ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, je pense surtout à sa famille, ses amis. Mais le combat continue et c'est pour cela que je suis présent à ce rassemblement. Cette exécution et toutes les autres ne doivent en aucun cas être laissées impunies.
Si Si les centaines de courriers adressés à l'ambassadeur iranien en Allemagne, aux autorités de Téhéran ou encore les nombreuses campagnes sur les réseaux sociaux n'ont pas empêché cette exécution, il est hors de question d'abandonner, selon Daniela Seperi.
Nous n'avons jamais affirmé qu'un parrainage pouvait éviter une exécution. Au contraire, nous sommes parfaitement conscients que cela peut arriver à tout moment. Mais il y a aujourd'hui une différence de taille. Les deux députés qui se sont investis pendant de nombreuses semaines pour sauver Mohamed vont tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur ce meurtre, jusqu'à ce que les noms des coupables soient connus de tous. Il faut briser cette impunité.
Près de 20 000 personnes se trouvent actuellement dans les prisons iraniennes pour avoir exprimé leur colère contre le régime des mollahs. Une centaine d'entre eux auraient déjà été condamnés à mort. Quelques jours après le rassemblement devant la porte de Brandebourg, Daniela Seperi a rendez-vous dans les bureaux de Yehwan Ri, députée au Bundestag. Les deux femmes se retrouvent régulièrement pour échanger sur le cas d'un des prisonniers iraniens politiques les plus célèbres, le rappeur Toumaj Salehi. Bien qu'elle ne le connaissait pas, Yehwan Ri a accepté d'aider Daniela et de parrainer Toumaj. Emprisonné depuis plus de 2 mois, l'artiste a été torturé. Il souffre de nombreuses fractures et risque de perdre la vue de son œil gauche.
Je vais vous montrer un clip d'une chanson de Toumaj. Il est devenu une figure majeure de la révolution. C'est un artiste qui arrive à exprimer dans ses textes, sa musique, tous les sentiments, toute la colère et toute la frustration du peuple iranien. Et dans le même temps, il parle d'amour, d'unité et de solidarité. C'est ce qui en fait une personne si particulière compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Iran, mais aussi à l'étranger. Il fait vivre la révolution à travers sa musique. Nous observons que le régime commence à réagir à notre action. L'un de mes collègues députés parraine deux frères, actuellement emprisonnés. Quand nous avons appris que leur exécution était imminente, nous avons tout fait pour la faire repousser et dès le lendemain, le régime a réagi en citant publiquement le nom de ce député du Bundestag. Le régime l'accuse aussi d'avoir menti. Nous savons donc que les responsables iraniens ont des échos sur ce qui se passe ici, qu'ils reçoivent notre message. Le monde vous regarde et c'est ce que vous faites.
Accusés de mener une guerre contre Dieu, les deux frères, Farhad et Farzad Tahazadeh, ont jusqu'ici échappé à la peine de mort. Et c'est tout le message porté par Daniela Seperi et ses députés allemands. Un nom qui est connu du grand public est un nom que le régime iranien ne pourra jamais faire disparaître.
Après avoir brutalement réprimé les opposants à l'intérieur de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko s'attaque à ceux qui se sont enfuis à l'étranger. Svetlana Tsikhanouskaya, opposante numéro 1 et rivale de Loukachenko lors de la dernière présidentielle, doit être jugée à partir d'aujourd'hui par contumace. La chef de l'opposition en exil risque jusque 20 ans de prison pour haute trahison, conspiration et bien d'autres chefs d'accusation. Preuve que la répression contre l'opposition ne faiblit pas, Marielle Vituro.
Plus de 1500, c'est le nombre de personnes emprisonnées en Biélorussie pour avoir protesté contre le pouvoir autoritaire d'Alexandre Loukachenko à la tête du pays depuis 1994. Pour l'opposante Svetlana Tsikhanouskaya, le régime met les gens en prison pour effrayer les autres et asseoir son pouvoir. Si au début il n'arrêtait que les opposants, désormais tout le monde est visé, la direction des syndicats et les personnes travaillant dans les médias. Vaillamment, la société civile essaye de résister. Des actions de sabotage des chemins de fer ont eu lieu en Biélorussie pour empêcher les soldats russes stationnés dans le pays d'aller attaquer l'Ukraine. Toute la difficulté de l'opposition est désormais de faire comprendre à l'étranger que la population biélorusse ne soutient pas la guerre menée par la Russie en Ukraine et qu'elle ne devrait donc pas subir les mêmes sanctions que celles appliquées à la Russie. Lutter depuis l'étranger devient également de plus en plus compliqué. Plus de 2 ans ont passé depuis le scrutin présidentiel contesté. Il y a quelques mois, un cabinet de transition a été formé, une sorte de gouvernement en exil. Mais des dissensions apparaissent entre les membres. La Lituanie et la Pologne, pays limitrophes de la Biélorussie, continuent de soutenir ceux opposés au régime. Mais la guerre en Ukraine a inévitablement mis au second plan la lutte de l'opposition. L'issue du conflit entre la Russie et l'Ukraine déterminera donc aussi le sort de la Biélorussie, base arrière pour l'heure des troupes russes.
Russian diamond, Russian, Russian diamond, Russian diamond, Russian, Russian, Russian diamond, Russian diamond.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a adopté 9 paquets de sanctions contre la Russie. Suite à ces mesures, les importations russes vers l'Europe ont chuté de plus de 60% et les exportations européennes vers la Russie d'un tiers. Mais un secteur a pour l'heure été totalement épargné, celui des diamants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pourtant appelé à stopper les importations de ces pierres précieuses, source de revenus pour le pouvoir russe. Les États-Unis l'ont fait. Alors pourquoi pas l'Union européenne ? Élément de réponse avec notre correspondant Jean-Jacques Herry.
Le quartier des Diamantaires ne paye pas de mine. 3 rues sans grand éclat, situées à 2 pas de la gare d'Anvers. Pourtant, si l'on regarde bien, on aperçoit des caméras partout. Et par mesure de sécurité, des barrières empêchent l'accès du périmètre aux véhicules. Car ici se joue la plus grande part du négoce mondial de diamants. Derrière les portes sécurisées des bourses se négocient l'achat et la vente de ces pierres précieuses, qu'elles soient taillées ou à l'état brut. Parmi celles-ci, un quart environ sont des diamants russes, dont l'importation échappe encore à toute sanction. Les professionnels se pressent sous la pluie d'un bâtiment à l'autre. La plupart refusent d'aborder le sujet. Seul Christophe, employé par une société spécialisée dans le transport des pierres précieuses, accepte de prendre quelques minutes.
Je crois que beaucoup d'entreprises et de personnes qui travaillent ici dans le secteur du diamant refusent déjà de travailler avec les diamants russes. Bien sûr, il y a des entreprises qui le font toujours, bien sûr. Mais oui, c'est une question difficile. Il y a tellement d'argent en jeu.
There's a lot of money involved.
En 2021, 1,8 milliard d'euros de diamants russes ont ainsi été importés à Anvers. Pour l'année dernière, les chiffres ne sont pas encore connus, mais même si les estimations prévoient une légère baisse, la valeur des importations devrait tout de même atteindre 1,3 milliard d'euros. Une somme conséquente qui finance directement la guerre en Ukraine, estiment les partisans d'une interdiction des diamants russes. Une argumentation balayée par Tom Nace, le porte-parole de l'Antwerp World Diamond Center, l'AWDC, l'association des diamants d'Anvers. Il rappelle l'importance vitale du diamant pour la Belgique, qui représente selon lui 1500 entreprises et 30 000 emplois directs et indirects.
Si vous mettez en place des sanctions, ça veut dire que vous forcez ces entreprises à aller voir ailleurs. Il y a beaucoup de naïveté là-dedans. Évidemment, la Russie ne va pas arrêter de vendre des diamants parce que l'Europe va les refuser. Les diamants vont simplement s'en aller et être vendus ailleurs. Et l'Europe va à nouveau perdre une industrie à 40 milliards.
Hans Merkett ne croit pas à ces chiffres. Pour ce chercheur, spécialiste des liens entre ressources naturelles et conflits, et qui s'intéresse plus particulièrement au secteur du diamant, il y aurait pourtant moyen d'agir. Mais le lobbying des diamantaires est très efficace et a des relais, reconnaît-il.
Il y a eu de pression des hommes politiques belges. Donc, ils ont utilisé plusieurs arguments. Disons que ce secteur va simplement déménager vers Dubaï, par exemple. Ils ont présenté beaucoup de scénarios catastrophes, comme on va perdre 10 mules de boulot, ça va être la fin d'Anvers comme centre de diamants. Notre premier ministre a même dit que ça serait mal pour l'Ukraine finalement parce que la Belgique va tomber dans une crise économique à cause de ces sanctions et donc il n'y aura plus de moyens pour aider l'Ukraine. Mais ce sont tous des scénarios qui sont assez loin de la réalité et ça mener à une approche très passive. Et on n'a pas vraiment fait des efforts à chercher des solutions parce qu'on ne dit pas que c'est facile, mais il y a des possibilités pour diminuer cette dépendance excessive des diamants russes à Anvers. J'ai pas beaucoup d'optimisme. Je crois qu'on va un peu oublier ce secteur et ils vont juste continuer à faire leurs transactions.
Effectivement, à l'heure où 9 paquets de sanctions ont déjà été adoptés par les États membres depuis le début de la guerre en Ukraine, jamais les 27 n'ont discuté d'éventuelles sanctions concernant le secteur du diamant. Des ONG comme Transparency International dénoncent la position hypocrite de la Belgique. Roland Pape est spécialiste des flux financiers illicites.
C'est très délicat cette histoire de diamant parce qu'on a jamais vu ne serait-ce qu'un brouillon où aurait été marqué « Oui, on sanctionne les importations de diamants de Russie ». En fait, ils stoppent ce genre de proposition très en amont, avant même que ça n'arrive au vote, parce que les États membres et la Commission ne veulent pas d'une surprise de dernière minute. Ils préfèrent proposer des sanctions sur lesquelles tous les États membres sont déjà d'accord. Et c'est là qu'on peut parler de cynisme pour l'ensemble du secteur du diamant et pour la Belgique. Le gouvernement belge dit publiquement « Bon, bah, si c'est mis sur la liste des sanctions, on ne va pas s'y opposer ». Mais en fait, en coulisses, ils se démènent depuis des mois, depuis le début de la guerre en février, pour dire que ce serait trop dur pour eux de sanctionner les diamants russes. Et du coup, la Commission ne le proposera jamais.
Au mois de juillet dernier, son ONG a écrit une lettre au gouvernement belge et à la Commission, réclamant la mise en place de sanctions sur les importations de diamants en provenance de Russie. Elle vient de recevoir une réponse de la Commission il y a quelques jours, une réponse sans grande surprise. Bruxelles se dit consciente des appels à bannir les importations de diamants russes et déterminée à mettre en œuvre ou à renforcer les sanctions existantes. Et elle se contente de rappeler que toute nouvelle éventuelle sanction doit être prise à l'unanimité des États membres.
Qui est Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, qui se montre de plus en plus critique vis-à-vis de l'armée russe en Ukraine. Surnommé le chef cuisinier de Poutine, l'ancien restaurateur du gouvernement dans les années 90 s'est transformé en chef de guerre aux pouvoirs étendus. Son portrait par Anastasia Becchio.
Ne picolez pas trop, ne vous droguez pas et ne violez pas les bonnes femmes.
Les conseils avisés d'Evgeny Prigojine à une vingtaine d'anciens détenus enrôlés par le groupe paramilitaire Wagner de retour au pays après 6 mois passé sur le front en Ukraine. Parmi ces combattants que l'homme d'affaires, lui-même ancien repris de justice, est allé parfois extraire personnellement des prisons russes en dehors de toute légalité, des condamnés pour homicide. Olga Romanova est à la tête d'une ONG de défense des détenus, la Russie derrière les barreaux.
Il préfère recruter ce type de personnes. Il a pris beaucoup d'assassins, de violeurs, beaucoup de gens qui ont commis des crimes graves. Il les enrôle à tour de bras, parce que ces gens n'ont pas peur de tuer. Il n'y a pas besoin de leur apprendre à tuer, ils ont déjà cette expérience.
L'homme d'affaires aurait recruté entre 20 et 40 000 détenus dans les prisons russes. À ceux qui s'en sortiraient vivants du front ukrainien, Evgeny Prigojine a promis la grâce, l'effacement du casier judiciaire ou l'amnistie. Tout cela relève des prérogatives du Parlement, de la justice ou du président. Pourquoi le chef de la milice Wagner a-t-il obtenu autant de pouvoir ? Le politiste Andrei Kolesnikov, expert de la Fondation Carnegie pour la paix internationale.
En ce moment, Poutine a besoin de Prigojine en qualité de recruteur de forces vives pour fournir de la chair à canon. C'est extrêmement important à cette étape. C'est pourquoi il est autorisé à devenir une figure publique. Mais cette figure très douteuse se voit attribuer des fonctions d'État.
S'il a longtemps caché ses liens avec Wagner, Evgeny Prigojine a reconnu en septembre avoir fondé le groupe. L'oligarque aux méthodes brutales se distingue par ses critiques acerbes du commandement militaire russe. Il avait même obtenu la tête d'Alexandre Lapine, rendu responsable de la désastreuse retraite de Kharkiv. Mais le vent a tourné, le colonel général a été nommé chef d'état-major des forces terrestres russes et le général Sourovikine, qui avait ses faveurs, a été rétrogradé. Olga Romanova y voit un message.
Sa cote a fortement chuté aux yeux de Poutine. Il a franchi certaines limites. Je pense même qu'il s'agit de la vidéo dont Prigojine a reconnu qu'elle venait de ses hommes et dans laquelle ses mercenaires interpellent le chef d'état-major de l'armée, le général Gerasimov, en utilisant des mots obscènes à son adresse.
Dans cette vidéo, langage fleuri, deux combattants de Wagner réclament des munitions, traitant le chef d'état-major général de tous les noms. Dans un message audio publié par le service de presse de son groupe Concorde, Evgeny Prigojine cautionne la vidéo.
Lorsque tu es assis dans un bureau bien chauffé, tu ne peux pas entendre les problèmes de la ligne de front.
Le chef cuisinier de Poutine cherche-t-il à renforcer son envergure politique en Russie par des succès militaires en Ukraine ? Il risque en tout cas de trouver du monde en travers de sa route, selon Andrei Kolesnikov.
Je pense que beaucoup de gens sont horrifiés par le fait que ce personnage se retrouve sous les feux de la rampe. Il est en train de gagner en influence grâce à son efficacité de voyou, une efficacité dont Poutine a énormément besoin en ce moment. Mais il a beaucoup de détracteurs, et si la lutte des clans prenait de l'ampleur, il n'est pas sûr que Prigojine en sortirait gagnant. S'il commençait à avoir d'autres ambitions ou s'il cherchait à être plus qu'un troll militaro-oligarchique. Je pense que Vladimir Poutine ferait tout pour s'assurer que Prigojine ne devienne pas un homme politique.
À l'automne, des bruits ont fait état d'un projet de lancement par Evgeny Prigojine d'un nouveau parti conservateur. Ils se sont rapidement dissipés dans les mines de Soledar.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure sur notre site internet rfi.fr ou en podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain.